franceinter.fr.
Il y a environ 1 million d'années, le rythme des glaciations terrestres s'est brusquement ralenti. Mais pour quelle raison? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, une seule solution, se mettre en quête des plus vieilles glaces de l'Antarctique et de leurs précieuses données climatiques.
On a commencé par dire ce qu'il y avait dans une carotte de glace qui fait 10 cm de diamètre. Et on a eu le culot de dire, eh bien, ce qu'on trouve là-dedans, c'est l'histoire de notre planète.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix du glaciologue et pionnier de la cause climatique, Claude Lorius. En ligne avec nous pour nous parler de ces glaces très anciennes, Jérôme Chaplaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue, climatologue, directeur de recherche CNRS et chef de projet de cette mission BEOI. Alors vous partez demain pour rejoindre la base Concordia en Antarctique. Vous allez passer 3 mois donc sur les glaces. Quel est le but de cette première étape de votre mission qui va s'étendre, on va le voir, sur de nombreuses années, hein?
Alors c'est un projet que l'on va conduire sur 3 années et qui vise à déterminer où, au voisinage de la base Concordia opérée par la France et l'Italie, on peut trouver de la glace suffisamment ancienne, remontant à 1,5 million d'années. Mmh. La particularité de notre équipe, c'est qu'on va déployer pour la première fois une sonde révolutionnaire que l'on a construite au cours des derniers 4 ans, que l'on dénomme Subglacieur, et qui doit nous permettre de valider un site très rapidement.
Alors avant de parler de Subglacieur, je voulais vous demander pourquoi cette recherche des vieilles glaces aujourd'hui, est-ce que ça a un lien avec le réchauffement climatique particulièrement ?
Ça peut paraître très distant et en fait c'est très proche de nos problématiques d'aujourd'hui. Ce qu'on va chercher dans la glace d'il y a 1 million d'années, ce sont les causes d'une bascule majeure qu'a connue le climat terrestre entre des successions de glaciations se produisant toutes les 100 000 ans et des glaciations qui se produisaient toutes les 40 000 ans. On sait qu'en fait c'est une réponse interne au système climatique qui explique cette bascule-là, mais on ne sait pas par quel mécanisme. On ne sait pas si les gaz à effet de serre en particulier en sont responsables ou non. S'il s'avère que c'est les gaz à effet de serre, on aura là un outil très important pour valider en fait les modèles climatiques qui nous estiment les projections climatiques du futur pour le 21e siècle et au-delà.
On est sûr que ces très vieilles glaces existent dans l'Antarctique ?
Oui, on est à peu près sûr. Je dirais qu'à partir des données radar notamment, c'est-à-dire qu'on a littéralement échographié la calotte de glace antarctique en de nombreux lieux, on sait qu'il y a de la glace très ancienne. On n'a pas pu la dater très précisément et c'est bien l'objet effectivement de ce projet de localiser cette glace et de lui donner un âge précis.
Et donc vous savez où les trouver exactement ou pas ?
Alors il y a, vous savez, l'Antarctique c'est gigantesque, hein, c'est presque 30 fois la France,
c'est pour
donc
ça,
c'est
ouais.
Un peu chercher une aiguille dans une botte de foin.
Et oui.
En fait, on focalise sur 2 régions d'intérêt majeur, celle qui est au voisinage de la base Concordia, donc qui est à 1100 km à l'intérieur des côtes, à 3200 mètres d'altitude, et un autre site que l'on appelle Dome Fuji, qui est un autre haut point, on va dire, de la calotte de glace antarctique, plutôt dans le secteur atlantique de l'Antarctique.
Alors, il y a beaucoup de nations qui participent au projet. Vous l'avez dit, la France, son rôle, c'est surtout l'instrument Subglacieur. Alors, qu'est-ce qui va faire ce petit Subglacieur ? D'ailleurs, le nom, qu'est-ce que ça veut dire, Subglacieur ?
Alors, Subglacieur, en fait, c'est un clin d'œil que j'ai décidé un peu à titre personnel envers la bande dessinée Black et Mortimer, les sarcophages du 6e continent, dans laquelle les deux héros, Black et Mortimer, rentrent dans la calotte de glace antarctique avec un submersible qui s'appelle Subglacieur. Donc, c'est un clin d'œil à cette bande dessinée que j'aime beaucoup. En fait, effectivement, on va déployer cette sonde qui a cette particularité d'intégrer un spectromètre laser qui nous permet de mesurer en temps réel, au fur et à mesure que la sonde pénètre à l'intérieur du glacier, des signaux qui nous permettent de reconstituer le climat et la composition de l'atmosphère en particulier et de dire si les couches sont mélangées ou si elles ne sont pas mélangées et si la glace est suffisamment ancienne.
D'habitude, on est obligé de ressortir la glace pour l'analyser, c'est ça la différence ?
Oui, les opérations classiques de forage, c'est pratiquement 3 à 4 années de travail sur le terrain pour récupérer un cylindre de glace de typiquement 10 cm de diamètre, comme nous le disait Claude Lorius en aparté il y a quelques instants, et ensuite on conduit toute une batterie d'analyses géochimiques sur ces carottes. Si l'on mettait en place une opération comme ça aujourd'hui sur un site où on pense avoir de la glace suffisamment ancienne, on courrait rapidement le risque d'être sur un site qui ne soit pas adapté et d'avoir en fait engagé de gros moyens humains et financiers pour rien. Donc c'est pour ça qu'on est dans ces phases de reconnaissance avec des outils originaux, de manière à gagner du temps, dépenser un petit peu moins d'argent, de manière à être sûr du coup, et ensuite mettre en place une opération de forage sur le long terme.
Ouais. Jérôme Chaplaz, ça représente quoi physiquement, en imaginant que cette carotte de glace justement soit sortie du sol, pour remonter sur 1 million d'années ?
Alors, en fait, c'est un cylindre de glace, comme je le disais, hein, 10 cm de diamètre, mais en fait, la glace est un véritable livre d'histoire. Ce que l'on fait, nous, glaciologues, c'est d'analyser toute une série de petits éléments en traces présents dans la glace, ou ce que l'on appelle les isotopes constituant les molécules d'eau de la glace, pour reconstituer l'évolution du climat, l'évolution des précipitations, la quantité de gaz à effet de serre, la circulation océanique, l'étendue des calottes de glace, énormément d'informations qui nous décrivent finalement les climats du passé.
Ça veut dire forcément aller très profond pour trouver les très vieilles glaces ?
C'est contre-intuitif. On n'a pas nécessairement besoin d'aller très profond. Et il se trouve que la calotte de glace antarctique joue le même rôle que la glace dans votre congélateur, c'est-à-dire que c'est un isolant thermique. Quand il y en a beaucoup d'épaisseur, en fait, votre congélateur refroidit beaucoup moins. C'est pareil avec la calotte de glace antarctique. Avec de fortes épaisseurs, la chaleur qui provient de la croûte terrestre ne peut plus s'évacuer vers la surface, et du coup, la glace ancienne fond au contact du socle rocheux. Donc on va chercher en fait de la glace qui aura entre 2,5 et 3 km d'épaisseur et qui présentera a priori les bonnes conditions.
Alors ça va être les premiers tests pour Subglacier. Vous êtes confiant dans son fonctionnement? Vous l'avez testé dans des grands frigos?
Non, je dois avouer qu'effectivement c'est notre grande angoisse. En fait, ça va être vraiment une saison de tests pour notre équipe. On est 9 personnes à aller sur le terrain, sous ma responsabilité et celle de mon collègue Olivier Alemani du laboratoire de glaciologie. En fait, tout est inventé dans cette sonde, donc tout va être à tester. On a fait le maximum, on va dire, des tests faisables dans une chambre froide, mais la vérité terrain, on sait qu'elle sera autre. Et donc, on s'attend à beaucoup de difficultés, beaucoup de stress, mais voilà, ça fait partie du jeu.
Bon, bah donnez-nous des nouvelles régulièrement, alors Jérôme Chaplaz. Hein.
Eh ben, on fera en sorte, oui.
On va suivre vos aventures en Antarctique. Vous partez donc demain et on vous souhaite de belles découvertes et surtout de tomber sur votre glace d'un million d'années puisque c'est le but et même un peu plus. Bonne journée à vous. Merci Jérôme Chaplaz. Et puis à demain Axel. Merci
beaucoup. À demain
beaucoup.
Mathieu, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des écureuils atteints de la lèpre qui ont été découverts. Cette infection bactérienne considérée pendant longtemps comme exclusivement humaine vient donc d'être repérée sur la face et la queue de deux populations d'écureuils rouges vivant en Irlande et au Royaume-Uni. Après des analyses génétiques, les chercheurs affirme que cette souche, qui diffère des souches humaines actuelles, est donc non contagieuse, pour être issue d'une lignée de bactéries vieilles de 27 000 ans. Les chercheurs précisent que ce réservoir animal pour ces espèces pourrait permettre de nouvelles émergences de la maladie si, justement, de nouvelles mutations génétiques le permettent. Faire ses achats en ligne tout en discutant sur les réseaux sociaux vous rend plus impulsif et moins attentif à la qualité. Des chercheurs new-yorkais ont demandé à plusieurs participants d'acheter sur Internet des aliments en vue d'un pique-nique avec des critères de qualité importants. Plusieurs types de sollicitations ont été mises en place pour les distraire pendant l'expérience et résultat, la qualité nutritionnelle des aliments commandés par ceux engagés dans plusieurs tâches ou dans des discussions instantanées s'est avérée bien moindre que pour les autres. Les chercheurs élargissent leurs résultats à tous les types d'achats de sommes raisonnables sur Internet et montrent que notre sens critique disparaît avec le nombre de sollicitations. Et puis des cliniques illégales proposent des thérapies à base de cellules souches un peu partout dans le monde. Dans une enquête parue dans Le Monde d'aujourd'hui, notre confrère Catherine Marie révèle qu'aux États-Unis, en Suisse et au Japon, des cliniques illégales surfent sur la vague des cellules souches et proposent des traitements dont l'innocuité et l'efficacité n'ont pas été évaluées par la science. Des traitements souvent très chers, n'offrant aucun gage de résultat et qui peuvent mettre en danger à la fois les patients et les médecins. Une plongée donc dans la fièvre des médecines régénératrices à lire sur le site du Monde.